Oui. On s'intéresse à la concession de l'aéroport avec une nouvelle candidature, celle de plusieurs communes. On va ensuite voir des panneaux solaires et des barrages hydroélectriques avant de reparler de l'affaire JPK. Le journal de la rédaction de Radio 1 et Thierry FM, c'est avec Valdemar Delage. Bonjour Valdemar.
Bonjour Damien, bonjour à toutes et à tous.
Valdemar, on commence par ce coup politique dans le dossier de la concession de l'aéroport.
Oui, nous vous l'annoncions en ce début de semaine que la Direction Générale de l'Aviation Civile avait repoussé la date limite de dépôt des candidatures à la concession au 4 février. Deux dossiers étaient déjà sur la table, ceux de Vinci et de Aegis avec la CCISM. Mais c'est à la demande d'un troisième candidat que ce report est intervenu, le GIP Motu Tairi, un groupe d'intérêt public créé à l'initiative du maire de Faa, Oscar Temaru. Il a fédéré autour de lui plusieurs communes de Tahiti et Moorea, à savoir Faa, Paea, Te Vaiuta et Itiaotera qui en sont les membres fondateurs. Papeete, Punaouia et Moorea s'apprêtent à les rejoindre et d'autres pourraient suivre. Le GIP a pour président VTA Sanford, membre du conseil municipal de Faa, commandant de bord d'ATN. Il vante une gouvernance équilibrée du groupement d'intérêt public, 51% des droits de vote à Faa, 39% aux autres communes et 10% aux partenaires privés et stratégiques. Écoutez VTA Sanford.
L'objectif quand même, c'est d'avoir un ancrage fort local, hein. Donc par les mairies, les entreprises locales au centre de financement. Pour l'instant, on s'adresse à des conseils locaux, hein, on finance. Ce qui est prévu, c'est des partenaires internationaux stratégiques, hein, qui apporteraient une expertise. Pour l'instant, j'ai pas plus de données à vous proposer. Sachant que cette structure, pour l'instant, elle est là pour répondre rapidement au délai d'appel d'offres.
Et à noter que Moëté Brotherson, qui détient, on le rappelle, les portefeuilles du tourisme et des transports aériens internationaux, aurait, selon une source proche du dossier, donné son assentiment lors d'une réunion. Les Tavana, de quelque bord qu'ils soient, voient aussi d'un bon œil la reprise de contrôle de cette infrastructure vitale par des acteurs locaux, d'autant qu'un GIP ne peut pas percevoir de dividendes. Selon VTA Sanford, les bénéfices resteraient ainsi dans la société d'exploitation pour être réinvestis. Mais d'autres questions financières ont leur importance dans ce dossier. Certes, ADT dégage un résultat d'environ 600 millions annuel, mais l'appel d'offres est clair, il porte sur la modernisation et l'agrandissement de Tahiti Faa. C'est donc un investissement très conséquent qui est demandé aux futurs concessionnaires. Il faudra aussi payer un ticket d'entrée de 4,1 milliards de francs à Aegis pour liquider l'ancienne concession. Et pour tout ça, le GIP compte sur le pays, son futur partenaire dans la société d'exploitation, pour trouver les fonds nécessaires.
Mais c'est vrai que le soutien financier du pays est nécessaire en tant que garant et accompagnateur de ce projet. Il s'agit de gouvernance locale et je pense que le pays quand même est à 49% capable d'avoir un soutien très fort dans cette organisation.
Et pour rappel, l'attribution de cette concession est contestée depuis qu'en 2011, le maire de Faa avait lancé les hostilités. Trois annulations plus tard, si le dossier du GIP Motu Tairi n'était pas retenu et que Aegis ou Vinci Airport obtenait la concession, les Tavana auraient la capacité de déposer un nouveau recours.
Et on parle d'une autre gestion, celle du port de pêche.
Oui, puisque le conseil d'administration du port autonome a attribué hier la DSP sur la gestion du port à la S3P, une société d'économie mixte qui rassemble les acteurs publics et privés de la filière, déjà aux commandes de ces 7 hectares de ponts. Pontons, quais, ateliers et chambres froides depuis 2009 et dont la gestion a été critiquée par le passé par la CTC. Il s'agit, grâce à cette nouvelle délégation de services publics et grâce aux revalorisations de redevances qui l'accompagnent, de rationaliser l'activité et surtout d'accompagner les ambitions de la pêche polynésienne. Un programme de réaménagement et d'extension du port est en cours et la S3P attend aussi des modernisations d'équipements, notamment du côté des tours à glace.
Il est 7h04 à Taravao, EDT se lance dans l'apivoltaïque.
Oui, Tonui, la filiale renouvelable d'EDT Engie a inauguré hier deux fermes solaires, Farégouve et Farémeri, pour un total de 16 000 panneaux. Avec la centrale du groupe Moux et celle de la famille Sioux, elle complète le cycle du premier appel à projet solaire lancé en 2021. Avec une stratégie un peu différente pour EDT Engie, ces panneaux sont installés tout près du sol, là où les deux autres promoteurs avaient choisi pour valoriser le foncier, d'en surélever toute une partie en l'un sur d'imposants piquets pour faire des ombrières ou des serres. Malgré tout, EDT veut aussi jouer le jeu de l'agrivoltaïsme. Des projets d'élevage sont à l'étude sur les deux sites, de même que des plantations comme la vanille ou le cacao. Mais surtout, le DG d'EDT Engie, Didier Pouzou, veut mettre en avant un projet qui lui tient à cœur, faire de ces fermes solaires des fermes apicoles. 4 ruches ont déjà été installées à Farégouve, plus d'une vingtaine d'autres pourraient les rejoindre. Et ce sont les salariés d'EDT qui sont formés en interne à leur entretien grâce à un passionné maison Tanoa Bugard.
Tout autour, regardez, on a de l'eucalyptus, donc une plante mellifère, on a du lecci, une plante mellifère, on a des plantes endémiques que vous voyez au bout là, qui s'appelle le apapé, donc plante mellifère aussi. Donc tout ça, c'est une source positive pour le développement des abeilles. Et donc l'idée, c'est de promouvoir le miel, mais de promouvoir tous les produits issus du miel. Une possibilité de produire du nougat. Pourquoi du nougat? Parce qu'en fait, on retrouve des Aotera, hein, donc une noix particulière en Polynésie, qui nous permettrait de produire donc du nougat au terrain. Hein.
Et l'inauguration de ces fermes à 2,5 milliards de francs a donc aussi été l'occasion d'une petite dégustation de miel déjà produit sur le site, mais également de nougat que produit ailleurs Tanoa Buyard. En attendant, pourquoi pas celui de Farégouve. Didier Pouzou en est sûr, il y aura un jour de quoi rivaliser avec ce qu'on fait à Montélimar, rien que ça.
Et l'autre différence avec la concurrence, c'est la taille de ces fermes.
Oui, avec 3 et 6 mégawatts crête de puissance, ces deux dernières centrales sont moins imposantes que les deux premières inaugurées par les familles Moux et Sioux. Une différence d'échelle compensée pour EDT par des coûts de raccordement plus bas. Farégouve et Farémery sont reliés directement au réseau de distribution du sud de Tahiti que la société gère elle-même, plutôt qu'au réseau de transport de la TEP. Leur énergie est donc orientée vers les voisins. Écoutez le directeur général.
Les deux centrales d'Itonu étant raccordées directement au réseau de distribution du Seco Sud vont permettre de réduire l'achat quelque part au nord, qui est composé d'un mix énergétique qui leur coûte aux alentours de 28-29 francs le kilowatt, alors que là ils vont bénéficier d'une production aux alentours d'une grosse vingtaine de francs du kilowatt, donc une baisse de sur cette partie-là de 25% à peu près du prix. Par contre, faut bien avoir en tête que c'est pas 25% de la facture malheureusement du consommateur, puisque l'achat d'énergie ne représente qu'un gros tiers de la facture.
Et le reste, ce sont les coûts de maintenance du réseau, les services qui y sont associés et les taxes qui, elles, ne baissent pas. Dans cette affaire, le Seco Sud est tout de même gagnant. C'est ce qu'a souligné son président et maire de Tayarapu Est, Anthony Jamais, pendant la cérémonie.
Et en parlant d'énergie verte, EDT a battu un record la semaine dernière.
Triple record même pour Maramanui, dont les barrages hydroélectriques ont atteint la semaine dernière leur plus haut niveau de production historique hebdomadaire. Avec les pluies, ils ont aussi vécu la meilleure journée de leur histoire, le jeudi 12 décembre. Et l'autre performance, c'est que 81% de l'énergie consommée entre le lundi et le dimanche à Tahiti était d'origine renouvelable. Un chiffre à mettre au crédit, bien sûr, des fortes précipitations de la semaine qui ont rempli les réserves. Mais ces performances ne s'expliquent pas uniquement par les pluies, Charlie René.
Non, il y a d'abord les améliorations constantes de Maramanui sur ses 16 centrales hydroélectriques dans les vallées de Tahiti. Il y a surtout la mise en opération fin 2022 de Putuwira, générateur virtuel de DT qui permet de soulager un groupe gasoil de la centrale de Punaru et faire de la place pour le renouvelable sur le réseau. Il y a aussi le développement du photovoltaïque qui a aidé, malgré la météo, jusqu'à un certain point en tout cas. Samedi, quand les nuages se sont dissipés au-dessus de Tahiti, ces grandes centrales avaient de l'énergie à revendre, mais vu la consommation basse du week-end et le manque de moyens de stockage sur le réseau, cette électricité a dû être délestée, c'est-à-dire gaspillée, Valdemar.
Des réflexions donc à mener sur la meilleure façon de gérer cette énergie renouvelable. Des réflexions aussi sur la consommation tahitienne, puisque si ces records sont régulièrement battus, c'est que cette consommation augmente d'année en année.
Je pense que le vrai cheval de bataille, et pourquoi pas en faire une cause polynésienne l'année prochaine, c'est comment arriver à la sobriété énergétique sans perte de confort. L'évolution de la consommation, on l'identifie, c'est des mauvaises habitudes, des équipements anormalement énergivores, et il y a moyen de réduire chacun sa consommation d'une dizaine de pourcents, ce qui ferait baisser la facture, donc ramener du pouvoir d'achat à tous les Polynésiens, mais en plus ça permettrait d'augmenter du coup notre mix énergétique, puisqu'on produirait la même quantité d'énergie renouvelable pour moins de consommation.
Les explications de Didier Pouzou, le directeur général de DTNJ.
Le dossier de l'affaire JPK revient dans l'actualité.
27 ans après la disparition de Jean-Pascal Courault, le dossier d'instruction sur l'affaire JPK n'est toujours pas clos. Hier, la famille de l'ancien journaliste et leurs avocats, Maître Lowe à Papeete, Maître Bourdon à Paris, ont fait le point sur cette affaire. Philippe Courault, le frère de JPK, dénonce, je cite, l'enlisement du travail de la justice dans cette affaire où 5 personnes sont mises en examen. Il a livré hier les certitudes et convictions acquises par la famille à la lecture du dossier, mais surtout, ils disent leur déception de ne pas voir l'instruction avancer, malgré l'arrivée en octobre dernier d'une nouvelle juge d'instruction, elle-même submergée de dossiers dans cette période difficile au palais de justice de Papeete. Les avocats demandent à ce qu'elle puisse bénéficier des moyens qui avaient été refusés à son prédécesseur, en particulier l'aide d'un assistant juridique et la possibilité d'auditionner Gaston Flosse. Depuis Paris, Maître Bourdon parle de déni de justice. Il faut que soit organisé un procès, la justice le doit, dit-il. Pour lui, pas de doute, c'est un crime politique. Maître Lowe, lui, rejette l'idée d'une délocalisation. Il faut que justice soit faite ici, dit-il.
On termine ce journal avec un témoignage témoignage qui nous vient du Vanuatu.
Oui, celui de Marco Boyd que nous avons pu joindre hier, moins de 24 heures après le séisme qui a dévasté la capitale Port-Vila. Écoutez.
J'étais à mon bureau, je travaille dans une galerie commerciale quasiment dans le centre de Port-Vila. Je ne sais pas comment j'ai fait pour sortir de la pièce. Bah, dès que je suis arrivée dehors, j'ai vu de la poussière partout qui sortait. Donc je me suis doutée qu'il y avait des bâtiments qui s'étaient effondrés et que c'était très grave. On n'a ni internet, ni en fait le téléphone. On n'a pas d'eau, pas d'électricité. L'hôpital commence à manquer sérieusement d'eau.
Et un premier bilan hier faisait état de 14 victimes et de 200 blessés soignés à l'hôpital. Il a depuis été revu à la baisse ce matin avec 9 morts décomptés. Des dégâts structurels sont aussi recensés. Au moins 10 bâtiments importants, dont un hôpital, ont subi des dégâts majeurs. Deux importantes réserves d'eau fournissant la capitale sont également totalement détruites. Le principal port est fermé. L'aéroport n'était pas opérationnel hier, sauf pour les premiers vols humanitaires en provenance d'Australie notamment. À noter que le dispositif humanitaire France, qui mobilise les forces armées australiennes, néo-zélandaise et française, est en place. Les forces françaises qui partiront de Nouméa. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous à 7h30, oui c'est bien ça, pour la revue de presse d'actualité locale.
Merci Valdemar pour ce journal. Maintenant c'est votre météo sur Radio.